Bienvenue dans les rendez-vous du terroir. Nous vous invitons à découvrir le Royan Vercors, un territoire où la nature s'entrelace étroitement avec la vie de ceux qui y résident, créant un paysage aussi riche que varié.
Cette série met en lumière les histoires uniques des acteurs locaux. Agriculteurs, artisans, restaurateurs, brasseurs et bien d'autres, qui partagent tous une passion commune pour leur métier et pour leur territoire.
Découvrez comment chaque individu, avec son cœur et son savoir-faire, enrichit la diversité et la beauté de ce territoire exceptionnel. Suivez-nous à la rencontre de ces hommes et ces femmes. Nous rendons visite ce matin à la chèvrerie du bar à Jonathan et Elena, donc de la chèvrerie qui sont à Saint-Martin en Vercors, et nous souhaitons en fait recueillir leur regard d'éleveurs et d'éleveuses concernant les chiens de protection qu'ils ont donc à la ferme. Bonjour Elena.
Bonjour.
Elena, on les appelle communément les patous, mais en fait ce sont des chiens de protection que vous avez. Vous en avez trois ici à la ferme ?
Exactement, on a trois chiens de protection, donc c'est des bergers d'Anatolie. C'est une des races qui sont utilisées pour la protection du troupeau.
Alors pourquoi des bergers d'Anatolie plutôt que des patous ?
On est parti sur des bergers d'Anatolie plus parce qu'on a, on a demandé un peu conseil à plusieurs personnes, on a cherché un peu sur internet, et les chiens de protection bergers d'Anatolie avaient l'air d'être plus sociables avec l'humain. Il y avait des meilleurs retours d'expérience de randonneurs, et après on avait aussi un peu nous-mêmes cette image du patou qui malheureusement pêche pour cette race-là, mais qui fait pourtant un excellent travail. Et j'ai commencé avec une seule chienne en fait de protection qu'on a eue en 2021, et en fait on a bien aimé. On a aimé cette race-là via Circa, donc la première, et on a continué avec les deux autres.
Je le disais, vous avez donc trois chiens de protection. Est-ce que Elena, tu peux nous les présenter, leur nom, leur rôle à la ferme ?
Alors on en a trois en effet, toutes de race berger d'Anatolie. On a la première Circa, qui a 4 ans maintenant, que j'ai acheté dans le Vaucluse chez un éleveur de brebis qui avait une berger d'Anatolie, et c'était aussi sa première. Et après on est passé sur Yuki, qui elle est toute blanche, donc des fois elle fait penser à un patou, mais non. On l'a donc depuis 2 ans, on l'a récupérée à 2 mois et elle a 2 ans. Et Zelda, qui a même pas encore un an et qui vient du même endroit que Yuki. On les a toutes les deux achetées du coup à Vassy-en-Vercors.
Alors il y a aussi Plume qu'on rencontre dès qu'on arrive à la ferme, qui est plutôt donc le chien domestique. Quelle est la différence en fait entre Plume et les autres chiens ?
Alors Plume, du coup, c'est une border collie, et Plume, c'est mon bras droit sur la ferme. Elle me permet de conduire le troupeau. Donc par exemple pour aller en parc, c'est elle qui va derrière et qui pousse ou qui permet d'éviter qu'elles aillent à droite ou à gauche, ou dans le bâtiment même pour gérer le troupeau pour aller à un endroit à un autre. Et les trois autres, Zelda, Yuki et Circa, elles, donc, c'est des chiennes de protection. Et elles, leur rôle, c'est d'être tout le temps avec le troupeau. Contrairement à Plume, qui est tout le temps avec moi, elles sont tout le temps au troupeau. Elles naissent, du coup, sont toutes les trois nées dans un troupeau de brebis. Elles sont tout de suite, en fait, dans l'ambiance et au contact des animaux. Et on les a récupérées à 2 mois chacune, pour pouvoir les habituer à nos chèvres, et nos chèvres aussi s'habituer à elles. Et elles, donc, elles vont pouvoir permettre, elles vont normalement protéger leur cercle social, donc les chèvres, de prédateurs ou après, de prédateurs principalement, quoi.
Et quel est ton lien, du coup, et celui de Jonathan à ces chiens de protection ?
Oh, c'est nos gros pépés. Non, elles sont très impressionnantes physiquement. On en a deux de 60 kilos et une de 45. Donc c'est vrai que c'est des chiens grands et musclés, forts, avec des grosses têtes. Donc c'est vrai que ça peut être impressionnant quand on les connaît pas. Nous, après, on les a vus grandir, on les a beaucoup habitués. Malgré tout, au contact humain, être manipulé, pour nous, c'est câlin et caresse tous les jours. C'est ce qu'on explique souvent à nos visiteurs, c'est que nous, elles ont des câlins, des caresses tous les jours. Après, on limite le contact avec les autres humains pour pas qu'elles soient non plus à rechercher de l'affection à tous les humains plutôt que d'en rechercher à leur troupeau, aux chèvres.
Et elles sont avant tout en fait attachées au troupeau comme si elles étaient membres part intégrante du troupeau.
C'est exactement ça. En fait, on les récupère à 2 mois parce que on a entre 2 mois et 4 mois pour créer vraiment un lien fort avec les chèvres, enfin avec leur troupeau. Donc quand elles arrivent, on les met dans un petit lot de chèvres avec une petite cabane pour qu'elles puissent se mettre à l'abri au début quand elles ont peur. Parce qu'après, les chèvres, c'est pareil, il faut qu'elles s'habituent à ce nouveau chien et c'est pas forcément quelque chose de naturel, en fait, d'avoir un chien parmi elles. Donc elles peuvent chercher un petit peu à les déstabiliser, à les taper. Donc il faut qu'elles puissent se protéger aussi au début. Et petit à petit, en fait, elles vont aller discuter avec les chèvres, avec des signaux, en fait, de chiot, tourner la tête, enfin voilà, pour dire bah, je suis gentille. Et normalement, en 15 jours, grosso modo, il n'y a plus vraiment de chèvres qui cherchent à les taper, quoi. Et du coup, on essaie vraiment de renforcer ce lien pendant ces 2 mois où elles sont toutes seules. Enfin, chez nous, en tout cas, c'est comme ça parce que c'est ce que j'ai appris de les laisser seules avec un petit lot de chèvres pour qu'elles s'attacheraient vraiment, vraiment à ce lot, pas à un autre chien, par exemple, ou aussi limiter en fait les visites d'humains. Donc, on a nous, notre famille, on demande à ce qu'ils viennent, à ce qu'ils parlent avec les chiennes, les toucher également, manipuler de manière à ce qu'elles aient l'habitude que ce soit d'autres personnes, mais à quand même limiter le contact humain, je dirais presque inutile, dans le sens où si ce n'est pas nous, c'est pas forcément nécessaire qu'elles soient caressées en fait tous les jours, quoi.
Et tu évoquais donc la question des prédateurs, ce qui vous a incité à prendre ces chiens de protection. De quels prédateurs parle-t-on ?
Alors du coup, on a pris Circa, la première, en 2021, par rapport au loup. Donc le loup est présent sur le Vercors, il est présent sur Saint-Martin en Vercors et a fait plusieurs attaques. Personnellement, nous, on n'a pas eu d'attaque. Après, je me suis installée moi toute seule en 2020 et Circa est arrivé en 2021 parce que j'ai vu le loup en 2020 pas loin de la ferme et donc je me suis dit pour moi être plus tranquille aussi, ne pas avoir constamment peur, je me suis dit qu'il fallait tout de suite mettre des moyens de protection en place, donc à la fois les parcs mais aussi la chaîne de protection qui pour moi était quand même un soulagement aussi de me dire que voilà, les moyens étaient mis et aussi bah laisser le temps au chien de grandir parce que un chien de protection n'est pas efficace dès qu'il arrive, ça reste en fait des bébés et des adolescents jusqu'à grosso modo leurs 2 ans, ils sont encore très jeunes en fait. Et donc il faut ce temps-là et voilà.
Et est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça te tranquillise toi dans ton travail de savoir que ces chiens sont là ?
Moi, oui, c'est sûr que psychologiquement, ça m'a rassurée. Je vais les voir tous les jours, mais j'ai pas besoin d'y aller toutes les heures à me dire « j'espère que tout va bien ». Aujourd'hui, on a un lot de chevrettes qui est dans un parc, entre guillemets, d'estive. Elles y sont du coup nuit et jour, et ça serait pas possible si on n'avait pas de chien. On pourrait pas les laisser dormir là-bas, toutes seules, on pourrait pas. Nous, en tout cas, on pourrait pas se permettre de les laisser, on serait pas tranquille. Là, aujourd'hui, elles ont les deux aînés avec elles. Et jusqu'à maintenant, bah, je touche du bois. Mais on n'a jamais eu d'attaque. Donc, je pense que c'est efficace. En tout cas, pour le moment.
Et à l'inverse, est-ce que la présence des chiens a pu constituer aussi une source de difficulté?
Alors les chiens, c'est quand même une surveillance, c'est quand même un travail. On n'est pas éleveur de chiens, donc c'est vrai que il a fallu apprendre, se former. Donc par exemple la DDT, la Direction départementale des territoires, propose une formation pour les éleveurs chaque année, quasiment chaque année en tout cas, de 2 jours avec notamment un référent. Ce qui pour moi était rassurant et m'a permis notamment d'intégrer la deuxième avec plus de confiance. Parce que un chien, bon, bah, ça va, mais 2 chiens, je voulais pas que ça se passe mal, que je fasse les choses dans le mauvais sens. Et donc, ouais, il faut apprendre, en fait, aussi, nous, à élever des chiens, à bien les introduire. Et bah, j'avais peur, en fait, plus par rapport, notamment au voisinage, aux relations humaines, que les gens comprennent que ce n'est pas des chiens méchants. Et je pense que dans le voisinage, ça s'est plutôt bien passé. On n'a jamais eu de problème pour le moment avec nos chiens. En tout cas, on n'en a pas eu de retour. En tout cas.
Pas de problème non plus avec d'éventuels randonneurs de passage ou des cyclistes ?
Alors nous, non, on n'a pas de problème. On a des retours en nous disant « Ah, ben, on est passé devant votre parc, les chiennes ont aboyé et couru, ça nous a fait peur, mais on avait peur qu'elles passent le fil, enfin le filet du coup en l'occurrence. » Ce qui m'amuse souvent parce que du coup, je les rassure en disant que nos chiennes sont, ont l'habitude du fil et du filet. C'est quelque chose que, sur lequel on fait attention et qu'on veut vraiment pas qu'elles passent. Elles le respectent. On peut mettre deux fils à hauteur de genoux. On sait qu'elles ne passeront pas, en tout cas avec l'électricité. Parce qu'après, bon, ça reste quand même des chiennes et comme les chèvres, s'il n'y a pas le courant dans les fils, les chèvres ou les chiennes vont tester. Mais les chiennes sont habituées toutes petites avec les chèvres à être au contact de fils électriques en fait autour de la ferme. Donc elles ont au moins testé une fois chacune et du coup non, nos chiennes ne passent pas les fils et les filets. Il n'y a pas de souci sur ça.
Et est-ce qu'il y a quand même des bonnes pratiques, des règles à respecter quand on passe à proximité du troupeau ?
Alors, même si elles sont au parc, j'avoue que je recommande quand même à ralentir un peu, notamment quand on est en vélo, sur un chemin en tout cas, parce qu'après sur une route, c'est une route, mais sur le chemin, si vous pouvez un peu ralentir, ça peut être bien, rassurer pour les randonneurs, se rassurer soi-même et rassurer les chiennes en parlant doucement. Ça peut être bien parce que ça rassure l'humain de parler et ça rassure aussi le chien de parler d'une voix tranquille, posée, tout va bien. Évitez de trop les regarder dans les yeux. Ne levez pas les bras, les bâtons, ne faites pas de mouvements brusques. Et puis, continuez d'avancer doucement, tranquillement, et de vous éloigner un peu du filet. Après, si vraiment le troupeau est en liberté, ce qui peut arriver en tout cas chez nous, normalement, il y a toujours le berger pas loin. Les chiennes vont... Alors, nous, elles sont quand même assez sociables. Donc, elles vont, pour certaines, Circa, par exemple, va s'approcher, c'est possible. Mais sinon, Yuki, qui, elle, est un peu plus sur recul, elle va aboyer, mais rarement s'approcher de moins de 10 mètres. Mais là, c'est pareil. Éloignez-vous le plus possible d'un troupeau quand vous passez à côté. Les chiens, prenez des fois le temps juste de ralentir, le temps qu'ils puissent vous sentir, vous analyser. Parce qu'un chien qui aboie, c'est pas forcément, c'est pas méchant. C'est qu'il ne sait pas ce à quoi il a affaire et du coup, il a besoin d'analyser si c'est dangereux ou non. Donc, il aboie pour à la fois se donner du courage, pour prévenir et dire qu'il est là, mais c'est pas une attaque, c'est vraiment pour vous prévenir que, attention, je suis là avec mon troupeau, qu'est-ce que tu fais là, qui tu es. Et donc c'est pour ça que il faut pas s'énerver, il faut pas parler brusquement, il faut pas faire de mouvements brusques. Et si vous sentez que vraiment la tension du chien ne baisse pas, il vaut mieux faire marche arrière aussi. Des fois, il y a des jours où là, ça reste des chiens et du vivant, et ils peuvent être un peu plus stressés aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis.
Et en tant qu'éleveuse, donc, tu me parlais également d'une référente, c'est ça, je crois, de l'Institut d'élevage que tu peux appeler si jamais tu as un problème ou une question ?
Exactement. Du coup, pour le coup, nous, on est quand même suivis par la DDT, donc la Direction départementale des territoires, qui, si on a déjà des questions, peuvent un peu nous indiquer qui appeler. Donc en l'occurrence, je connais la référente. D'ailleurs, c'est chez elle que j'ai acheté les deux dernières chiennes. Donc, pour nous, c'est Stéphanie Jalifi à Vassion en Vercors que l'on peut appeler si on a un souci. Après, on peut avoir des suivis également plus sur long terme. Donc après, ça va être financier aussi. Mais pour la mise en place, on peut être aidé, accompagné. Et puis si on fait face à un gros problème aussi, du coup, on peut aussi vraiment faire appel à eux sur du long terme.
Et pour terminer peut-être nos échanges, est-ce que, Elena, tu pourrais nous présenter votre chèvrerie donc, que tu gères avec ton conjoint Jonathan ?
Donc oui, avec Jonathan, on est à la chèvrerie du Bar. On transforme tout le lait de nos chèvres, donc on a 65 chèvres en pâturage et en bio. On transforme donc en petits chèvres frais, demi-secs, secs, des camemberts, des yaourts et des pâtes pressées. Du coup, moi, j'ai acheté le bâtiment en 2020 et Jonathan m'a rejoint en 2022 pour développer la partie transformation. Donc, j'avais déjà une chienne et depuis, on en a pris deux autres que Jonathan était aussi ravi de prendre et d'accueillir. Et voilà.
Et quels sont les produits de la chèvrerie? Où est-ce qu'on peut les trouver?
Donc nos produits, on peut les trouver à la ferme, sur le marché de la Chapelle en Vercors le jeudi matin. Et aussi chez du coup nos partenaires sur Villars et sur Saint-Jean. L'épicerie de Saint-Jean, la Biocoop de Saint-Jean, Jacopin par exemple.
Est-ce qu'on a des horaires ou des jours à donner pour les ventes à la ferme ?
Donc on est ouvert le lundi, mercredi, vendredi, samedi de 10h30 à midi et de 17h30 à 19h.
quelques produits peut-être en descriptif pour donner l'eau à la bouche à nos auditrices, nos auditeurs.
Ce qu'on voulait vraiment arriver à reproduire, c'était un camembert. Donc on est arrivé à ce qu'on souhaitait. On l'appelle donc camembert parce qu'on est sur le hameau du Bar. Et donc c'était un jeu de mots assez facile à trouver. Donc vraiment, c'est Jonathan qui a vraiment beaucoup étudié la question et suivi les techniques de production de camembert de Normandie pour pouvoir reproduire le camembert au lait de chèvre chez nous. Si vous le laissez un peu sortir avant de manger, normalement, vous pouvez arriver à l'avoir assez crémeux.
Voilà pour le produit emblématique donc de la chèvrerie du Bar, le camembert. Merci beaucoup à Elena donc, qui répondait à nos questions, et notamment donc, sur les chiens de protection qui l'accompagnent au quotidien. Merci Elena.
Merci, bonne journée.
Allez, jeune, donc elle a une réactivité quand même assez longue. On faisait la sieste, madame. Bonjour.
Voilà. En ce moment, on apprend à ne pas sauter. Hein, c'est compliqué. Mais elle a vraiment caractère à elle.
Ah, ma mère.
Bah non. Voilà. C'est bien.
C'était les Rendez-vous du terroir en partenariat avec l'Office de tourisme Vercors-Drôme. Cette série de portraits vous invite à découvrir le Royaume Vercors à travers les histoires uniques des acteurs locaux, agriculteurs, artisans, restaurateurs, brasseurs et bien d'autres. Des individus qui partagent tous une passion commune pour leur métier et pour leur territoire. Suivez-nous à la rencontre de ces hommes et ces femmes et découvrez comment chacun, avec son cœur et son savoir-faire, enrichit la diversité et la beauté de ce territoire exceptionnel.